Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir donc à l'occasion des élections municipales où nous présentons des listes et où je conduis celle de Dijon. Une fois de plus, nous nous retrouvons happés par ce ronron électoral alors même que le feu embrase la moitié du monde. Car ce ne sont pas exactement des élections municipales comme les autres. Les États-Unis et Israël viennent de déclencher en Iran une guerre aux conséquences incalculables. Tout le Moyen-Orient est impacté, du Liban aux Émirats arabes unis en passant par le Koweït. En déclenchant un jeu d'alliances, les dirigeants européens, dont les Français, s'engagent dans des opérations soi-disant défensives. Mais on sait bien ce que cela veut dire, surtout lorsqu'ils augmentent en même temps le nombre d'ogives nucléaires et de 36 milliards le budget militaire français. Je n'ose pas dire le chiffre engagé par les Américains. Cela fait un moment que l'on parle d'une marche à la guerre. Depuis la guerre en Ukraine, débutée il y a maintenant 4 ans sur le sol européen, tout près d'ici, Gaza ensuite, retransmis en direct et sommet de l'horreur. Et puis sans compter les guerres dont on ne parle même pas, au Congo, au Soudan, et aujourd'hui, l'Iran, donc, et toute la région du Golfe. Le rythme s'accélère. Une bascule vient d'être franchie. On a le sentiment que cette fois, ça se rapproche vraiment et que nous n'y échapperons pas. On nous entraîne vers une guerre généralisée. Cette guerre, on la voit venir depuis des mois, voire des années. Mais là, l'angoisse est devenue générale. Même ici, dans notre confort de pays riche, nous sommes affectés. Impossible de se dire « après nous le déluge », car le déluge est là. Cela passe par l'augmentation des prix du carburant, par la crainte de pénurie, par le fait que le CHU où je travaille envisage de construire un centre médical avancé à la base aérienne de Longwy pour trier les blessés de guerre, tout s'accélère. Et nous sommes tous un peu tétanisés, parce qu'en même temps que l'inquiétude devient profonde, dans la réalité, pour nous, ça va encore. On ne subit encore ni les bombes, ni les attaques de drones. Et on mesure un peu notre chance jusque-là, au fur et à mesure que la menace se précise. Pour ceux qui sont nés ici, y compris parmi les plus anciennes générations encore en vie, nous n'avons jamais connu la guerre sur notre sol. Par contre, beaucoup d'entre nous, de nos collègues, de nos voisins, de nos colistiers sur les listes municipales, l'ont connu dans leur chair ou dans leur famille. Et pour cela, arriver en France, c'était la paix assurée, enfin. Beaucoup se disaient qu'ici, ça n'était pas possible, que ça ne pouvait pas nous atteindre. Mais depuis que, samedi dernier, les États-Unis et leurs bras armés dans la région Israël ont déclaré la guerre à l'Iran, rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, l'Angleterre autorise les États-Unis à se servir de ses bases militaires. L'OTAN, France incluse, positionne ses navires de guerre en Méditerranée. Israël en profite pour attaquer le Liban. L'engrenage guerrier est en place et personne ne peut dire jusqu'où cela ira. Les bombardements en Iran ont déjà fait des centaines de victimes, dont des dizaines d'enfants d'une école de filles. Certes, le dictateur Khamenei est mort, mais il est difficile de se poser en libérateur des peuples après de tels actes. En tant que puissance la plus grande du monde, la plus riche, la mieux armée, face à la crise économique et au rétrécissement des marchés, les États-Unis veulent réaffirmer et consolider leur position dominante. Ils veulent en Iran un régime à leurs bottes qui accepte leur domination. Mais pourquoi cette guerre ? Personne ne peut croire au prétexte des installations nucléaires, parce qu'une puissance comme l'Iran n'a pas exactement les moyens de produire une bombe atomique en série. D'autant plus qu'un certain nombre de sites ont déjà été détruits. On croit encore moins au désir des États-Unis de délivrer le peuple iranien de la dictature de Khamenei. Car les États-Unis s'accommodent très bien de par le monde de tous les dictateurs dès lors qu'ils leur sont favorables. L'impérialisme américain n'a pas cette réputation de sentimentalisme. Alors quoi ? Est-ce une soudaine lubie de Trump ? Oui, en partie, car ce dernier est connu pour son imprévisibilité. Mais il a l'accord de l'état-major de l'armée, des grandes entreprises, de la classe dirigeante américaine. Car la puissance américaine a ses fragilités. Déjà en termes économiques, elle ne sait pas exactement où elle va. La finance, aux prises avec l'inflation et les cybermonnaies. L'intelligence artificielle, où toutes les grandes compagnies investissent à l'aveugle. Les classes populaires, dont le niveau de vie se détériore. Bref, tout n'est pas stable et serein dans l'avenir de la plus grande puissance de ce monde. Aussi, face à la montée de la Chine et de l'Inde, ou face à des puissances comme la Russie, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, les États-Unis réaffirment leur domination. Trump l'a décidé là, d'accord, il a un ego démesuré, d'accord, c'est un peu prématuré, mais cela correspond en réalité au fond de la pensée des institutions et des grandes instances américaines. Amérique d'abord. Quels sont les intérêts derrière ? Même si on se demande parfois s'ils le savent eux-mêmes, finalement, ce qu'ils veulent, c'est la domination. Ensuite, ils se prépareront sans doute à attaquer des concurrents plus sérieux. C'est ça l'état d'esprit de ces guerres, qui depuis le siècle dernier ont toujours eu le nom de guerre impérialiste, comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale, et comme cette troisième qui se prépare. Elles ont pour but la domination d'une classe sociale, celle qui a remporté la direction de la société sur l'aristocratie, une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie et qui domine le monde. Mais cette fois-ci, au-delà d'une immense boucherie qui se prépare, cela sera l'avenir même de notre espèce et peut-être plus de notre planète qui sera en jeu. Et on assiste sidéré à cette démonstration de force énormissime sur les mers d'Arabie, pour écraser à la finale un pays à la puissance bien inférieure. C'est l'éléphant contre la souris. Cela se veut un avertissement pour tous les peuples. Et aucune logique, aucune raison raisonnante n'en est à l'origine. Parce que la seule raison réelle derrière tout cela, ce sont les intérêts à peine collectifs, mais surtout privés, des grandes compagnies internationales qui font la pluie et le beau temps des hommes de cette terre, qu'ils soient blancs, noirs, musulmans ou chrétiens ou autre chose, tous dans le bain. Nous n'y couperons pas, nous, ici, dans notre îlot de paix, et nous le savons bien, et oui, la guerre est engagée. Et ce qui est désagréable aujourd'hui dans ces élections, c'est que tous les politiciens, quels qu'ils soient, font semblant de ne pas le voir. Parce que, chacun à leur façon, ils sont en accord avec cette classe capitaliste qui dirige. Pourtant, difficile de ne pas voir, malgré leur ronronnement et leur discours pacifiste, que notre société est bel et bien divisée en classes. Il y a les classes dirigeantes et ceux qui les soutiennent dans l'espoir d'avoir quelques miettes du gâteau, et il y a les autres, et les autres, c'est nous, les petites gens, ceux qui travaillent et ceux qui n'ont pas voix au chapitre. C'est sur cela que les bombes vont être précipitées, c'est contre cela que la guerre sera faite. Eux, on le sait, les dirigeants, ils s'en sortiront. Aujourd'hui, en Iran, c'est le peuple qui paye. C'est pour cela qu'il y a un siècle, le mouvement ouvrier déclarait « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et c'est pour cela qu'à cette époque, en créant la Troisième Internationale, il avait à son programme le renversement de la classe capitaliste. Le mouvement ouvrier d'aujourd'hui est loin d'avoir les moyens et la volonté des années 1920. Mais la nécessité de renverser la classe capitaliste reste à l'ordre du jour plus que jamais. Alors oui, c'est pour affirmer cela que nous nous présentons à ces élections municipales. Certes, notre taille et l'état même du mouvement ouvrier dans son ensemble sont tellement faibles que cela paraît dérisoire. Mais il est évident que la leçon de choses que la classe capitaliste est en train de nous infliger risque d'accélérer, d'une façon ou d'une autre, la prise de conscience des classes opprimées. Car ce sont elles à qui on va demander tous les efforts, y compris les efforts de guerre. Ce sont elles qui vont être condamnées d'avance. Regardez déjà la multiplication des fermetures d'usines et de plans de licenciement. Tetra Pak à Longwy, Valti à Montbard ont fermé. Géant Casino à Chenôve aussi. Gitec te licencie et c'est maintenant Seb à Selonget qui annonce un plan de suppression d'emplois. Le coût des logements, de l'énergie, les denrées alimentaires de base ont vu leur prix exploser. Et il devient de plus en plus difficile de vivre quand on est un travailleur, ou privé d'emploi, ou à la retraite, car ni les salaires, ni les allocations, ni les pensions ne suivent. L'immense majorité des classes populaires se débattent pour ne pas tomber dans la pauvreté, voire la misère. Les dossiers de surendettement, voire de mise sous curatelle, se sont multipliés. Alors qu'il est évident que, de façon provocante, la classe riche s'enrichit de plus en plus. Ces dernières années, la progression de leurs bénéfices avoisine les 40%. Pour les riches de l'Hexagone, mais encore plus pour les riches de l'impérialisme américain. S'enrichir toujours plus, telle est la religion de cette classe sociale qui est prête à faire exploser la planète sur laquelle elle est assise. Tandis que ce sont déjà les classes populaires qui payent, dans tous les pays, le prix fort de la crise économique. On craint déjà de perdre son emploi, de ne pas pouvoir se soigner car il n'y a plus ni médecin ni service d'urgence. Et maintenant se rajoute la crainte des pénuries, l'augmentation du prix des carburants. On sait d'avance que là aussi ce sont les travailleurs qui paieront le prix fort. Et si guerre il y a, ce sont nos enfants qu'on enverra en première ligne combattre au front un ennemi qui n'est pas le nôtre, comme c'est déjà le cas pour les Ukrainiens, voire même les Russes, victimes de la folie de puissance de leurs dirigeants. L'avenir est sombre, et les seuls qui pourraient s'opposer au grand capital fauteur de guerre, c'est une classe sociale tout entière. Une classe sociale qui n'a rien à perdre, sauf ses chaînes, la classe travailleuse. Celle dans les usines et celle sur les ordinateurs, celle dans les bureaux et même celle dans les champs, car les paysans aussi sont loin d'être les grands propriétaires que leurs syndicats les obligent à suivre. Cette classe devra apprendre ou réapprendre son camp. Ça peut aller assez vite, parce que les capitalistes s'emploient hardi petit à le leur faire comprendre par l'expérience. Mais avant tout, ce qui compte, c'est que surgisse de cette classe ouvrière une avant-garde nouvelle et consciente. Savoir qui est notre ennemi et où il l'est reste vital pour les classes populaires. Si modestes soient-elles, nos listes de travailleurs qui se présentent à l'élection municipale s'inscrivent dans cette perspective. Car il faudra bien des femmes et des hommes qui refusent cet engrenage guerrier et qui affirment leur confiance dans la classe ouvrière et dans sa capacité à offrir un autre avenir dans l'humanité. Et le premier pas nécessaire est la prise de conscience. Les bourgeois nous montrent le chemin à suivre. Envoyer des hommes à la guerre sans être formés ne sert qu'à faire de la boucherie. Il faut d'abord apprendre et comprendre. Cette démarche, nous devons l'avoir sans relâche. Les événements et les faits eux-mêmes feront le reste. Le deuxième point tout aussi essentiel est d'apprendre à communiquer avec les nôtres afin de pouvoir s'organiser telle une armée. Il ne faut pas laisser le terrain à la bourgeoisie ennemie. Et toute action faite entre nous, avec notre voisinage, dans une cité, même un immeuble, voire une cage d'escalier parce qu'on n'a pas de chauffage, ou qu'on nous fait payer quand même, parce que les logements sont mal isolés, qu'il y a des jours sous les fenêtres ou tout autre problème, compte beaucoup de ce point de vue. Toutes ces actions anonymes nous apprennent à nous organiser. C'est un début d'organisation. Le troisième pas, qui est la conséquence du premier et du deuxième, est celui qui doit permettre de préserver les intérêts de la classe des travailleurs. Et cela ne peut se faire que par la construction d'un parti. Alors le 15 mars, votez et faites voter pour les listes Lutte ouvrière, le camp des travailleurs.